Polar sur Agora Côte d'Azur, c'est Onde Noire, l'émission Polar, donc la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Et sans plus attendre, sans transition, comme on dit dans les médias les plus germano-pratins, on va accueillir Nadège Agulot. Nadège Agulot, bonsoir.
Bonsoir Corinne.
Voilà, on vous entend très bien. Voilà, on va faire une rapide présentation. Je vais vous le dire tout de suite, j'espère que vous ne serez pas déçus. On va pas beaucoup parler de vous pour laisser le maximum de place à vos éditions, puisque vous êtes éditrice et que vous avez donc créé avec Sophie Delamarlière fin 2012, les éditions Mirobol.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, pour présenter un tout petit peu la ligne éditoriale, parce que j'ai très, très envie de garder un maximum de temps pour un livre qui m'a beaucoup enthousiasmée en ce début d'année, je vais vous demander simplement de commenter l'expression que l'on trouve sur la page d'accueil de votre très joli site. Vous, en tout premier, on lit « Expédition littéraire en terre étrangère ». Une bien belle déclaration.
Oui, et en fait, qui représente tellement bien notre ligne éditoriale. Nous, notre idée, vraiment, c'était d'aller chercher des textes de très bonne qualité littéraire dans des contrées qu'on connaît de nom, etc., mais dont on ne connaît ni la culture, ni l'histoire, ni la société. Et c'était cette idée-là, en fait, qu'on voulait pousser dans nos livres, cette découverte des cultures étrangères, sociétés... Voilà, donc pour nous, expédition littéraire en terre étrangère, c'est chacun de nos livres en fait. Dans chacun de nos livres, il y a toujours une expédition littéraire dans cette terre étrangère, ou même dans ce genre, peut-être qu'on connaît moins, littéraire, par exemple, nous, de le fantastique, l'absurde, le noir à la polonaise, par exemple.
Voilà, alors on va revenir très vite. Donc justement, vous parliez de la fantasy. Donc quand même, juste pour présenter ces éditions, donc pour l'instant, il y a deux belles collections. Une collection qui s'appelle Horizon Pourpre, qui est dédiée à... Bon, voilà, la fantasy, le fantastique, mais avec un regard souvent décalé. Vous aimez ça, quoi. Les expéditions littéraires, elles sont un peu décalées, souvent, quand même.
Tout à fait, et puis c'est souvent aussi la manière de découvrir une société, voilà, du côté, quand on reste pas justement consensuel dans le milieu, plutôt quand on va un petit peu sur la marge, sur le côté décalé, c'est peut-être une façon d'intégrer une société ou une culture de façon un peu plus originale et moins consensuelle.
Justement, donc votre deuxième collection, ça correspond totalement à ce que d'aucuns ont dit du roman noir, c'est-à-dire que c'est une littérature qui définit la société en ne s'intéressant pas au centre mais aux marges. Donc la deuxième collection s'appelle Horizon Noir, évidemment. Dans Onde Noire, c'est celle-là qui nous intéresse le plus, même si on aime bien loucher sur la deuxième. Et en ce début d'année, un petit bijou d'ailleurs qu'on attendait depuis un moment, parce que début 2013, on a découvert un nouvel écrivain qui nous arrive de Pologne. Alors vraiment une terre étrangère, je crois que c'était le premier polar qui parle de la Pologne actuellement. Voilà, c'est vrai.
Oui, il y a eu un autre auteur de polar. Alors, son nom de famille, je ne saurais plus, c'est Marek quelque chose qui a fait la trilogie de Breslau.
Oui, mais c'est plus historique, on va dire.
Voilà. Hein,
c'était paru à la série noire, tout à fait.
Ouais. Ouais. Et c'est vrai que Zygmunt, lui, il a dans cette trilogie, puisque c'est une trilogie qui met en scène le procureur Théodore Sapski, il a eu à cœur de parler de la Pologne contemporaine, mais marquée de son histoire, pas forcément très joyeuse.
Très glorieuse. Non, enfin bon, ça c'est le propre de pratiquement tous les pays, hein.
Tout à fait, mais la Pologne, quand même, c'est un pays très particulier qui a été beaucoup envahi, qui a été envahi par la Suède, qui a après été envahi par les Russes, les Allemands ont fait beaucoup souffrir la Pologne aussi. Enfin, c'est un pays qui est particulièrement atypique, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vieux fantômes dans cette histoire polonaise que Zygmunt Miłoszewski, l'auteur, a voulu... faire ressurgir dans ses livres. Voilà, c'est vraiment une image de la société polonaise, pas forcément, encore une fois, très reluisante. Hein. Il ne mâche pas ses mots l'auteur aime vraiment mettre le doigt sur les points qui font mal à la Pologne.
Ah oui.
Donc voilà, et dans la Pologne contemporaine, et aussi dans l'histoire polonaise.
Oui, on retombe. Vous avez parlé d'une trilogie, alors on va juste évoquer, parce que je pense qu'il faut que tout le monde ne lise pas un, mais deux livres maintenant, s'ils ne l'ont pas découvert, parce que le premier a quand même été un joli succès éditorial. Donc le premier s'appelle Les Impliqués. Et on parlait, donc juste pour dire le thème, Zygmunt évoquait, alors je me permets de l'appeler par son prénom parce que j'arrive pas du tout à prononcer aussi bien que vous son nom de famille, donc cet écrivain polonais évoquait une psychothérapie assez particulière, la constellation familiale, donc sujet qu'il connaît bien parce que s'il s'appelle Zygmunt, c'est parce que son papa, il m'a raconté qu'il était psychanalyste, et on avait découvert un personnage très très intéressant. Alors ce personnage, c'est un procureur, Théodore Zaski, et on le retrouve donc dans le deuxième qui vient de paraître, qui s'appelle Un fond de vérité. Avant de parler de ce livre, une dernière petite parenthèse, Les Impliqués, on peut se le procurer facilement, bien sûr on peut l'acheter chez Mirobol, mais il vient de reparaître en livre de poche, pardon, chez Pocket. En édition de poche chez Pocket.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous pouvez le trouver en librairie. Le grand format est toujours à disposition aussi. Mais voilà, donc Pocket nous a décidé de nous suivre avec cet auteur qu'ils ont vraiment trouvé aussi génial que nous l'avions trouvé au départ.
C'est une très bonne nouvelle. Donc on parlait de Théodore Zaski, là encore, la prononciation du nom
est très bien.
Ah merci, c'est gentil. Je précise quand même, parce qu'il faut rendre hommage aux traducteurs, parce que sinon on n'aurait jamais ces aussi belles paroles. La traduction des deux, c'est Camille Barbaski.
Oui. C'est en fait un jeune traducteur à qui on a donné sa chance aussi, étant une jeune maison. On s'est dit pourquoi pas donner sa chance à un jeune traducteur, et on a bien fait.
Oui, c'est bien
le travail remarquable.
Alors Théodore, c'est un personnage très attachant de par son métier. Il est procureur, bon ça c'est je dirais pas classique, mais on en retrouve quand même pas mal, par exemple dans la littérature américaine. Mais moi, ce qui m'a profondément attaché à lui, c'est qu'il doute tout le temps. Il doute dans sa vie personnelle, il doute dans sa vie professionnelle, dans ses jugements. En fait, bien sûr, son métier fait qu'il est assez éloigné de nous, et pourtant, il est très humain et très proche de nous.
C'est ça, mais je pense que ce doute aussi, en tout cas au niveau de son travail, c'est ce qui le fait aussi progresser. La remise en question perpétuelle, c'est ce qui va lui permettre aussi de regarder les à côté, éventuellement analyser à nouveau un petit détail qu'il aurait pu laisser passer à sa première analyse, etc. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie de sa force en tant que procureur de douter perpétuellement.
Et il est tellement proche de nous que, c'est pas que ça nous fasse plaisir, mais il est faillible. Par exemple, au début de ce roman, alors le premier, je précise, se passait à Varsovie, et découvrir la vie d'un procureur à Varsovie, c'était très très intéressant. Et puis là, il part dans une ville assez improbable, tout au moins pour le lecteur français, et je lis juste trois lignes pour montrer dans quel état d'esprit il se trouve au début de ce roman. Pour le dire gentiment, il s'était trompé. Pour le dire moins gentiment, il avait noyé sa vie patiemment construite dans un puits d'excréments à cause d'une saloperie de mirage. Quelques lignes plus loin, à haut et place d'une famille, la solitude. Au lieu du grand amour, la solitude. Au lieu de l'intimité, la solitude. Il est un peu au fond du tunnel quand commence ce livre « Un fond de vérité ».
Oui, je pense qu'il a fait peut-être un petit peu un constat sur sa vie passée et c'est vrai qu'il a accepté ce poste dans cette petite bourgade charmante, Sandormix, où il s'attendait peut-être à trouver un peu plus de calme, une sérénité qu'il n'avait plus à la capitale, et finalement il se rend compte que pas du tout. Et c'est vrai que il se rend compte que sa vie est un peu vide, il va d'aventure, alors qu'avant il était marié avec une femme qui, même s'il l'a trompé, dans Les Impliqués, il était quand même amoureux d'elle, quoi. C'était l'amour de sa vie. Donc il se rend compte que c'est vrai qu'il a un grand vide, que sa vie est plutôt vide, et au niveau professionnel, parce que il se retrouve de la capitale Varsovie à cette petite bourgade où il y a à peu près 30 000 habitants. Donc le genre d'affaires à résoudre n'est pas du tout du même calibre, alors que lui, quand même, un procureur star qui a suivi des affaires de très haut niveau. Donc c'est vrai qu'au début du roman, c'est vide un peu sa vie, mais ça change au fur et à mesure.
Ah oui, ça va beaucoup, beaucoup se remplir vu l'enquête qu'il va mener et vu les péripéties qui vont lui arriver dans cette paisible bourgade, tout au moins il dit ça au début du roman. C'est un état des lieux très lucide, justement, parfois implacable. Autre tout petit extrait, justement, quand il arrive dans cette ville, et là, je dois dire qu'il est quand même... c'est quand même pas un guide touristique. Hein. Extrait pour décrire cette ville. Sa position, à l'écart des principaux axes routiers, conférait aux splendides ruelles de Sandomierz une atmosphère d'ennui, de vide, de consternation typiquement polonaise, et en fait de putain de musée. Je sais pas comment ça a été pris par ses concitoyens, mais il est vraiment pas tendre avec ses concitoyens.
Oui, je crois qu'à la fin du livre, il fait quand même une petite parenthèse sur la ville, etc., en disant voilà que c'est quand même une ville. Mais voilà, c'est une ville touristique polonaise, quoi. C'est une des rares villes qui n'a pas été touchée par les destructions massives de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que ça fait un petit peu office de ville carte postale, quoi, en fait, de ville musée. C'est pas forcément dans cette ville-là que son héros, Théodore. Peut vraiment donner le meilleur de lui-même. Il s'y ennuie et je pense que c'est une ville plutôt ennuyeuse, c'est une ville belle à regarder, mais où il ne se passe pas grand-chose, quoi.
Alors, plutôt que de décrire un petit peu l'enquête, bon, on va avoir des meurtres, on va avoir d'abord une découverte de cadavres, donc c'est une personne qui a été, enfin, un cadavre qui a été saigné à vif, et puis il va y en avoir un deuxième. Donc, une enquête... on en dira un mot à la fin si on a le temps, mais moi ce qui m'a vraiment impressionné dans ce roman, c'est la manière dont il aborde un thème très très très, et j'insiste, délicat. C'est le fameux, et je dis fameux parce que c'est vrai que c'est une idée assez préconçue en France, c'est ce fameux antisémitisme classique des Polonais qui dure depuis très très longtemps, et c'est donc le thème général de ce roman, en fait.
Oui, qui dure très très longtemps, parce que du coup, pour moi, c'est une des forces de Zygmunt Milchevski, c'est que quand on lit ses livres, eh ben, on a envie d'en savoir plus, parce que du coup, il parle vraiment de faits historiques, de l'histoire, etc. Et bon, du coup, moi, j'ai été voir un petit peu tout ce qui est meurtre rituel, puisque du coup, le livre traite de ça, en fait, des légendes, des meurtres rituels juifs, en fait. Et en fait, on se rend compte que ça, ces légendes de meurtres rituels existent depuis des siècles et des siècles, quoi.
Oui, apparemment, d'ailleurs, pas qu'en Pologne, hein, parce qu'il y a, en discutant et en reprenant des livres, il y a un écrivain américain qui l'évoque il y a quelques années. Et en fait, donc, ces meurtres rituels, c'est cristallisé dans une scène. Bon, alors, bien sûr, il y a les meurtres, il y a le début de l'enquête, interroger, c'est pas un journaliste, c'est un procureur. Il va aller donc interroger des rabbins, il va interroger des tas de gens. Et il y a ces meurtres rituels sont cristallisés dans une scène absolument magnifique où il rentre dans la cathédrale de la ville qui est le summum de l'antisémitisme et de ce qu'on peut trouver, parce qu'il y a un tableau avec des juifs qui sont en train d'assassiner et de saigner à blanc des enfants. Et il y a scène de torture absolument abominable, des enfants qui sont roulés dans des tonneaux avec des clous à l'intérieur. Pour les saigner pendant qu'ils sont encore vivants. Et dans la légende, c'est ce que nous raconte cet écrivain, c'est que donc ce sang aurait servi à faire de la matza.
Oui, c'est ça, à faire le pain azim pour la Pâque juive. Et c'est d'ailleurs, ce tableau que vous évoquez est existant.
Tout à fait. J'ai été le regarder sur Internet.
Oui, c'est ce que je dis. C'est vrai que ça donne envie après d'aller en savoir plus, de savoir quelle est la part du vrai, en fait, dans ce qu'il raconte. Et parce que c'est tellement incroyable, quoi, en fait. Hein, c'est difficile à croire. Et c'est vrai que donc ce tableau, c'est vrai que c'est intéressant d'aller le voir. Et parce que c'est vrai que c'est le seul, en fait, qu'on connaisse, je pense, ce tableau comme ça. Et donc, il est exposé dans la cathédrale de Sandomierz. Dans le livre, il est plutôt caché dans la cathédrale, parce que évidemment, même si c'est une œuvre d'art, c'est pas c'est de nos jours, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut montrer dans une église, d'autant plus.
en plus. Mais ce qui est très très intéressant dans ce livre, en dehors de la narration et de l'enquête très bien menée et des personnages que l'on va rencontrer au fur et à mesure, c'est cette idée en fait. C'est, il parle donc ouvertement de cette idée que les Polonais seraient particulièrement antisémites, mais il y a une charge. S'il y a une charge virulente, en fait, c'est contre tous les extrémismes. Il y a un discours très très clair, en particulier contre toutes les croyances et les légendes de tout poil. Et en fait, ce qu'il semble expliquer dans ce livre, c'est que c'est souvent dû à l'inculture, à l'ignorance. Ça, c'est un discours très très intéressant.
C'est vrai que les catholiques en prennent aussi pour leur grade, les politiques aussi. C'est vrai qu'il y a une dénonciation de l'extrémisme à tous ces niveaux-là, politique, religieux. Donc oui, c'est vrai que c'est intéressant. De toute manière, les livres de Zygmunt Mojeszewski sont très très riches. Et donc voilà, ça rejoint ça, hein, cette
idée. Alors en toile de fond, Il y a en même temps une espèce de chronique du temps présent, du moment de l'enquête, avec au début de chaque chapitre une espèce de revue de presse des événements, alors qui se sont passés plus spécifiquement, les grands événements et les tout petits événements, résultats de foot en Pologne, voilà. Et ça donne...
La météo.
Voilà, la météo, ce qui s'est passé dans telle ville, voilà. Et ça donne vraiment, on a l'impression pratiquement qu'on est au milieu de ces gens-là.
Ouais, c'est vrai que ça, c'est, on a l'impression d'y être, quoi. Et ça nous fait encore plus rentrer, dans l'histoire et dans la culture polonaise, quoi. Et je sais que l'auteur disait, pour lui, au départ, il avait pensé donc faire ces pages de news à chaque chapitre, et puis il s'est dit, mais que ça va intéresser personne. Et finalement, son éditeur lui a dit, mais si, tu te rends pas compte, c'est vraiment une des forces en plus du livre, même si c'est, ça a l'air d'être un détail. Et ça l'avait étonné, en fait, que pour un lecteur, c'était justement super d'avoir accès à ces petites news, ces grosses news et ces petites news qui remettaient un petit peu dans le contexte, etc. Puis souvent, enfin dans celui-là en tout cas, il y a pas mal d'humour aussi dans ces petits morceaux de news.
Oui, ce qui allège un petit peu des fois le récit qui, sans être pesant, est emprunt, et c'est normal, on est dans le roman noir, mais voilà, c'est y a des moments très très durs et très lourds de noirceur, ouais. Justement.
C'est très noir, mais c'est aussi drôle. Enfin, voilà, il y a des passages assez drôles, hein, finalement.
Oui, ben c'est encore une fois Théodore et les gens qui sont autour. Ils représentent très bien la vie de tous les jours. Pas de choses extraordinaires, bien sûr. Ces meurtres-là, on ne les retrouve pas tous les jours, mais pas des choses extraordinaires. Un héros style SAS ou quoi. Et on est vraiment dans le roman noir et dans du roman noir de très grande qualité. Alors malheureusement, le temps tourne, voilà, nos 20 minutes sont déjà écoulées. Je voudrais simplement une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on peut qualifier, parce que ce roman, une fois qu'on le prend, on ne peut pas le lâcher, c'est un page-turner. Est-ce qu'à un moment donné, le mot thriller, quand vous avez lu, vous, le manuscrit au départ, vous est venu en tête ou voilà, c'est un mot quand même qu'on peut évoquer avec ce livre, parce que ça peut attirer un certain lectorat. Disons.
Oui, alors je dirais plus sur le deuxième que le premier.
Oui, tout à fait.
Oui, parce que c'est vrai que, en plus, Zygmunt le dit, hein, enfin, lui, il a lu beaucoup de maîtres et américains et européens du polar et du thriller, et c'est vrai qu'il s'est inspiré de ces codes, et donc les impliquer, des codes éditoriaux un petit peu qui font que un polar est bon parce que si et ça, ou un thriller est bon. Et c'est vrai que dans celui-là, il y a plus cette ambiance thriller, notamment du fait qu'il y a plusieurs meurtres, etc. Qui n'était pas forcément la même chose dans le premier. Et ça peut être des fois un petit peu sanglant aussi dans celui-là. Et puis bon, voilà, il y a cette traque du tueur, il y a plein de fausses pistes. C'est vrai qu'il y a un suspense qui est peut-être plus présent dans celui-là que dans le premier.
Tout à fait. Ben, on va attendre avec impatience le troisième, puisque vous nous avez parlé d'une trilogie. Oui. Mais on va être obligé de vous dire au revoir, Nadège Agulot. Et on va conseiller à tous nos auditeurs d'aller visiter votre très beau site, parce que je suis sûre que rien que de voir les couverture. Ils vont ensuite aller voir leur libraire pour commander des livres des éditions Mirobol. On vous souhaite une longue vie éditoriale, Nadège Agulot et toute votre équipe. Et
merci
puis à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir, Nadège.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Agora Côte d'Azur.